la chronique beaujolaise de l'Académie. Une émission proposée par les académiciens Pierre Prunet et Jean-Pierre Chantin. Sur Calade, le 100.9 et www.radio-calade.fr. La chronique beaujolaise de l'Académie, c'est parti.
Donc nous sommes dans la chronique beaujolaise de l'Académie. C'est une émission qui se fait dans le cadre des chemins de traverse, les premiers mardis de chaque mois à 18h30, rediffusée le dimanche suivant. Elle précède la conférence de l'Académie de Villefranche et du Beaujolais qui a lieu le deuxième samedi de chaque mois à 16h à l'auditorium de Villefranche, et elle traite du sujet en s'élargissant. Ce mois-ci, la conférence portera le 12 février sur l'itinéraire en Beaujolais d'un épicier ambulant, reconnu médecin sans lettres au XIXe siècle. Elle sera faite par Olivier Faure, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Jean Moulin de Lyon 3, spécialiste de l'histoire et de la santé. Aujourd'hui, nous en profiterons pour évoquer plus précisément avec Jean-Pierre Chantin, membre de l'Académie et chercheur en histoire religieuse contemporaine, le cas de notre officier de santé, connu sous le nom de Monsieur Philippe. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Monsieur le Président.
Alors, une des premières questions déjà, c'est un épicier ambulant, c'est qu'Olivier Faure va nous présenter, et qui a, semble-t-il, connu quelques déboires judiciaires, était officier de santé. Qu'est-ce donc que ce titre-là ?
Alors, un officier de santé, c'est quelque chose qui a été bien oublié aujourd'hui, à part pour l'aspect militaire, mais j'en parlerai pas. C'est en fait un titre qui a été créé en 1803. Donc, le consulat veut réorganiser les études de médecine, mettre un peu d'ordre dans le fatras qui existait jusque-là. Et il crée, donc on crée en 1803, les écoles de médecine. Dans ces écoles de médecine, on a deux niveaux de diplôme. Le premier qui s'obtient après un baccalauréat, qui est le plus prestigieux, c'est le doctorat. Donc doctorat en médecine ou en chirurgie. Et là, on peut exercer dans toute la France. Et puis, il y a un diplôme subalterne, qui est le diplôme d'officier de santé. Il faut avoir un titre secondaire simple, un certificat de ce que l'on veut. Et on passe devant un jury départemental. Et ce jury vous accorde le statut d'officier de santé. Et vous ne pouvez exercer les soins, pour ne pas dire la médecine, mais au moins des soins, on va dire primaires, juste dans le département, pas au-delà. Et c'est un statut qui va être aboli en 1892. Alors, pour vous donner une idée, le mari de Madame Bovary, Charles Bovary, est officier de santé. Et c'est pour ça qu'il est un peu toisé par le pharmacien, parce qu'il n'a pas son équivalent.
D'accord. Donc, il semble qu'un compatriote beaujolais de ce 19e siècle, nommé Philippe, a voulu lui aussi être officier de santé. Pourquoi a-t-il été si connu à tel point que sa tombe à Lyon est toujours fleurie aujourd'hui ?
Oui, c'est sa tombe au cimetière de Loyasse. Hein. J'ai l'habitude de dire qu'elle est aussi fleurie que celle d'Alan Kardec au Père Lachaise. Alors, on connaît bien Alan Kardec et on ne connaît pas toujours celui qu'on appelle Maître Philippe ou Monsieur Philippe de l'Arbrel. Alors, de son prénom, il s'appelle Nisier Philippe, Nisier Antelme Philippe, même exactement. Et alors, lui, il a un parcours, justement, par rapport à l'officier de santé, qui est intéressant. Il a un certificat de grammaire, donc vous voyez, rien à voir avec la santé. Et en fait, il passe son certificat de grammaire comme il est apprenti boucher chez un oncle à Lyon. Donc apprenti boucher, c'est pas la chirurgie, hein, c'est la médecine, mais là, c'est pas ça. Et il passe donc son certificat de grammaire et il s'inscrit à l'officialat de santé. Et il va s'inscrire 4 fois de suite pour devenir officier de santé. Et on est en 1862 à Lyon. Et en fait, il va être dénoncé, alors on ne sait pas par qui, mais au sein de l'école, parce qu'il avait déjà des activités de soins illégales depuis au moins 5 ans. On ne pouvait pas exercer, comme aujourd'hui d'ailleurs, la médecine sans titre. Et lui, il avait des activités de soins qui étaient jugées illégales. Et il va être obligé d'abandonner cet officialat de santé en 1874. Mais en fait, c'est quelqu'un qui est déjà connu à Lyon comme guérisseur. Alors, vous voyez, pas officier de santé, mais au moins guérisseur. Et il est connu à Lyon, au moins, et aussi à l'Arbrel. Alors, c'est là où il devient un compatriote, parce qu'il a épousé une fille d'un industriel cossu qui s'appelle Landard. Je crois qu'il y a encore un clos Landard, d'ailleurs, à l'Arbrel aujourd'hui. Il l'épouse en 1877. ce qui lui donne une certaine aisance financière. Et on dit de lui, et c'est pour ça qu'il est connu, qu'il est inspiré de Dieu, qu'il est un ami de Dieu. À Lyon, on l'appelle Monsieur Philippe. À Paris, on l'appelle Maître Philippe. Donc quelqu'un qui a une notoriété dans les soins, mais sans être officier de santé.
Et ces officiers de santé, dans leur formation, avaient-ils une spécialité ou pas? Ou étaient-ce des généralistes ou étaient-ce simplement des intuitifs de la médecine?
Alors, officiers de santé, non, ce n'est pas des spécialistes du tout. Ils n'ont pas le niveau, ils ne suivent pas d'études de médecine, comme un médecin. Ils suivent des cours de base, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on les considère comme des subalternes. En fait, ils viennent aider localement pour donner des soins de base. Ils n'ont pas... Et leur formation est assez sommaire. En tout cas, pour lui, pour M. Philippe, lui, sa formation n'a pratiquement pas eu lieu, puisqu'il a été exclu de l'école sans jamais pouvoir être officier de santé. Mais je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui a quand même... alors, il a une formation, mais qui n'est pas du tout académique. Alors, pour le replacer un peu, pour savoir un peu qui il est né en Savoie piémontaise, à Loisieux. À l'époque, la Savoie n'était pas française. Il est né en 1849. Et on dit que... il y a une légende autour de lui. On dit que sa mère a déjà été voir le curé d'Ars quand elle était enceinte, pour avoir un peu... alors, on ne sait pas exactement ce qu'il lui a dit, mais il y a une légende qui s'instaure. Et en tout cas, pour M. Philippe, il aurait eu des dons de guérison. Donc, vous avez bien entendu, des dons de guérison dès l'âge de 13 ans. Lorsqu'il vient à Lyon, donc, je vous ai dit, comme aide pour son oncle Boucher, il aurait fait une première guérison miraculeuse en 1866 sur un jeune homme à qui semble-t-il, était paralysé, ou du moins pas très bien en point, et il lui aurait dit de se lever, et un peu comme dans la Bible, et le jeune homme se serait levé, et ça aurait été le soin spirituel qu'il a fait connaître dans tout Lyon. Donc en fait, il n'a pas de formation réellement, comme guérisseur. Ça ne l'empêche pas de monter un cabinet où il reçoit des patients, au Brotteau. Et comme il se marie, il fait un beau mariage, il va pouvoir soigner gratuitement, enfin apporter ses soins gratuitement à ses patients, et ouvrir un autre lieu de consultation, boulevard des Belges. Et là, on est dans des beaux quartiers de Lyon, puisqu'on est au bord du parc de la Tête d'Or. Et ça va être en 1872. Alors, pour quand même, par précaution, il faut savoir que ce monsieur Philippe, il a quand même deux officiers de santé avec lui, des vrais officiers de santé, qui vont l'assister. Et puis, il tâte aussi un peu de chimie, mais au 19e siècle, tout le monde faisait ça. Et il inventait des médicaments avec un pharmacien qui l'aidait, comme la philippine, pour garder ses cheveux, par exemple. Mais on est là tout à fait dans l'époque.
Mais sa renommée est telle, puisqu'elle continue encore aujourd'hui, mais est-ce que ce n'est pas justement parce qu'il y avait cette essence religieuse qui, et peut-être ces pratiques autour de la religion pour accéder à une guérison quelconque?
Ah, on est dans ce qu'on appellerait, si on veut être prudent, la médecine alternative. Mais oui, on a une médecine à base de merveilleux, en fait. Alors, de religion, et quelque chose de très spirituel. En fait, c'est pour ça qu'il va être, je ne l'ai pas dit, mais il va être condamné 4 fois pour exercice illégal de la médecine, quand même, à cause de ses activités, qu'on pourrait plutôt qualifier de don de guérison. Enfin, il est réputé pour avoir un don de guérison, simplement par des paroles, ou par des impositions de mains. Mais d'après ce que ses patients ont pu dire, parce qu'on a des témoignages, c'est quelqu'un qui transmet un pouvoir qui lui vient de Dieu. Et attention, un Dieu tout à fait catholique, puisqu'il invoque Jésus, les saints. On est là dans quelque chose de très religieux. Il aurait un don divin.
Mais pas un don particulier. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui imposent les mains, ils enlèvent le feu, comme on dit, ou les brûlures, etc. Est-ce que lui avait une particularité? Ou une spécialité, plutôt?
Pas de spécialité, mais on disait de lui qu'il soignait autant les corps que les âmes. Et le soin des corps et des âmes à l'appel de Dieu. Et tout en restant dans quelque chose de très catholique. Mais finalement, on est à l'époque, on est fin 19e siècle, hein, et on est à l'époque où on a beaucoup de ruraux qui arrivent à Lyon. Et ils soignent plutôt les gens plutôt pauvres, pas seulement, mais enfin plutôt. Et c'est des personnes qui viennent de campagne où Georges Sand a décrit des pratiques justement de coupeurs de feu, de soins par prière. Et on se demande si ces personnes qui arrivent à Lyon, elles retrouvent pas un univers qui est tout à fait le leur, hein, qui guérir par des prières, aller voir une personne inspirée. Finalement, Monsieur Philippe, c'est un peu le relais en ville des choses qu'ils ont déjà vues, chez eux. En tout cas, pour ces patients, il a un don, et un don qui vient de Dieu. Et il n'est pas du tout hétérodoxe, il n'est pas du tout hors de la religion. Hein. Pour eux, il fait partie de ce que ils sont en tant que catholiques.
Donc s'il a un tel succès, c'est qu'il a fait beaucoup de bien dans la région lyonnaise notamment.
Ah oui, alors il a une grosse réputation sur Lyon, hein, il est très très renommé. Quand il a été condamné 4 fois pour exercice illégal de la médecine, hein, c'était en 1887 et jusqu'à 1892, on est au moment où l'officier de santé va être enlevé justement, parce qu'il va être ôté par la loi, hein, parce que toutes ces pratiques... subalternes vont être petit à petit récusés. Mais lui, quand il est condamné, ça n'empêche pas qu'il va continuer avec succès à recevoir des personnes. Il a des assistants avec lui, alors ça peut un peu rassurer les autorités. Il exerce gratuitement. Comment vous voulez poursuivre quelqu'un qui exerce gratuitement, hein? Il ne fait pas de profit, il n'a pas de bénéfice, ce qui n'est pas le cas d'autres personnes, même sur Lyon. Et... Les gens se pressent en masse. Je précise que les séances sont collectives. Ils ne soignent pas en recevant les personnes seules dans leur cabinet. Tout le monde vient dans la grande pièce, ils sont tous assis, et ils déambulent au milieu des personnes, et ils s'arrêtent vers elles, et ils devinent quel est leur mal, ou ils leur donnent des conseils. Donc tout ça a de quoi impressionner, et on comprend que la réputation a été vite au rendez-vous. Et d'ailleurs... À sa mort, donc il meurt en 1905, on a le journal La Dépêche de Lyon, et j'aime bien cette citation, qui dit « S'il ne guérit pas toujours, il fait au moins du bien ». Et finalement, c'est peut-être ça qui fait la réputation à Lyon de ce maître Philippe, enfin du moins de ce monsieur Philippe pour les Lyonnais.
Est-ce qu'on peut employer le terme de guérisseur, comme on le fait aujourd'hui? Il y a un certain nombre de personnes aujourd'hui que l'on qualifie de guérisseurs parce qu'ils ont un don particulier. On parlait tout à l'heure justement de celui qui enlève le feu, enfin en tout cas qui soulage les brûlures, etc.
La différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, que vous fassiez ça au nom d'un dieu chrétien, tout le monde s'en fiche. Parce que la religion a perdu son emprise, on n'est plus vraiment dans ces choses-là. Donc le don peut être venir de n'importe où ou être juste le don d'une personne. À l'époque, au 19e siècle, notamment auprès de ces personnes qui viennent des campagnes qui sont encore parfois ferventes, pas toutes, mais quand même un peu ferventes, le fait d'avoir un don qui est une grâce de Dieu, en fait, donc rester dans quelque chose de très catholique, c'est important. Ça n'empêche pas qu'à côté de ça, vous ayez d'autres mouvements. Je prends un exemple, le spiritisme. On parlait d'Alan Kardec tout à l'heure, le spiritisme était très présent à Lyon. Mais les spirites, ils invoquaient le curé d'Ars, par exemple. Dans les tables tournantes, hein, ils faisaient appel au curé d'Ars, qui était un esprit qui pouvait venir donner des conseils. Donc vous voyez, cette proximité avec le catholicisme, elle est rassurante au XIXe siècle. Aujourd'hui, tout le monde s'en fiche, et la différence vient peut-être de là.
Et pourtant, au XIXe siècle notamment, puisqu'en 1905, il y a eu les fameuses lois en question, il y avait quand même un mouvement, j'allais dire, contre la religion, qui prenait, qui avait une emprise sur le peuple. Et c'était pour libérer le peuple de cette emprise que sont arrivées les lois que vous connaissez.
Mais c'est plutôt, c'est un mouvement plutôt d'élite. On est dans des mouvements politiques, la franc-maçonnerie aussi française, je précise, qui est dans ces mouvements-là. On parlerait plutôt pour la population de sécularisation, c'est-à-dire de personnes qui petit à petit perdent le lien avec la religion. Mais c'est très lent, hein, ça se fait très lent. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que vous pouvez très bien ne pas être d'accord avec l'Église catholique, tout en étant catholique quand même. Voilà, de trouver que l'Église catholique est un peu trop présente, mais avoir un sentiment religieux qui est quand même très catholique. Et là, on parle de décléricalisation.
Parfait. Donc, sa réputation dépasse la région, donc, ce qui veut dire qu'il avait un pouvoir assez important, puis une renommée qui dépassait largement la région lyonnaise.
Ah oui, alors, on peut se demander d'où ça vient, parce que finalement, c'est très lyonnais. Enfin, lui, sa réputation, elle est très lyonnaise. Hein, lyonnaise et un peu beaujolaise, parce qu'à L'Arbrelle aussi, il est réputé. Et alors, on peut penser que le succès ailleurs qu'à Lyon, vient de ses relations avec des sociétés savantes. Alors, pas du type de l'Académie de Villefranche et du Beaujolais, hein, des sociétés savantes qui tournent plutôt autour des sciences médicales. Et il est correspondant de nombreuses sociétés savantes, notamment étrangères, italiennes, par exemple. Donc, il a beaucoup correspondu. Donc, il y a déjà une piste qu'on pourrait trouver par ici. Et en 1881, par exemple, il va être appelé au chevet du Bey de Tunis. En 1881, c'est le moment où le protectorat français va être instauré sur la Tunisie. Et le Bey de Tunis est malade, et il fait appel à lui, et on sait qu'il le fait par l'intermédiaire d'un médecin italien. Donc le lien avec les sociétés savantes, cette correspondance avec les sociétés savantes, paraît intéressante pour voir pourquoi il a une réputation qui dépasse les frontières. Et puis, il va même obtenir un doctorat en médecine en 1884, mais par correspondance, ce qui peut nous paraître bizarre, et de l'université de Cincinnati aux États-Unis. Alors je précise que les titres de docteur étranger ne sont pas reconnus. Hein, donc il a beau être docteur en médecine de Cincinnati par correspondance, il ne sera quand même pas docteur en France. Donc voilà cette réputation internationale qui s'assoit, et ça va même assez loin, puisque il va être aussi en contact avec des milieux occultistes de Paris. Donc le milieu occultiste, hein, qui recherche les forces spirituelles dans les écritures. C'est une définition très rapide, hein, pour définir l'occultisme. Mais ils entendent parler de lui, et ne serait-ce que par les congrès. Hein, il va participer à de nombreux congrès de sciences occultes, notamment à Toulouse, par exemple. Et les Parisiens prennent contact avec lui et reconnaissent en lui, alors non plus Monsieur Philippe comme les Lyonnais, mais Maître Philippe. Maître Philippe qui, pour eux, est un maître inconnu. C'est un titre qui est donné. C'est-à-dire quelqu'un qui est en contact direct avec Dieu. Finalement, ils font que prolonger ce que lui-même disait par rapport à ses guérisons. Et donc, une personne qui a une place importante dans l'occultisme. Et c'est par ce biais des occultistes parisiens qu'il va être connu à la cour de Russie, et même être invité à la cour de Russie, à Saint-Pétersbourg, en 1899. On a d'ailleurs des grandes duchesses qui sont venues le consulter à Lyon, ce qui intéressait beaucoup la police, qui tous les déplacements de souverains ou de familles étrangères étaient toujours très, très, très surveillés. Et c'est pour ça qu'on a de belles archives de surveillance à Lyon, aux archives départementales de Lyon.
Alors le fait que l'on continue à fleurir sa tombe, ce qui veut dire que c'est soit il y a des relations avec lui, de sa propre famille, soit qu'il avait une telle renommée, un tel pouvoir, qu'il y a encore une espèce je ne dis pas de culte, mais en tout cas de recherche auprès de lui pour ce genre de médication et de secours.
Alors la première solution tout de suite, et la deuxième solution pour après. En fait, il avait des disciples. Notamment les Parisiens sont venus ouvrir une école de médecine magnétique. Hein, donc on est dans le magnétisme, par le fluide, on peut faire passer des soins ou des choses comme ça. Et une école de médecine existait à Paris déjà, de médecine magnétique existait à Paris. Et elle va être ouverte à Lyon. Hein. D'ailleurs, l'un des médecins magnétiques va épouser la fille de Maître Philippe. Et ils vont s'installer à Lyon. Donc déjà, on a des disciples. Et à la mort de M. Philippe en 1905, l'un d'eux va prendre sa suite, sa suite et comme médecin magnétique et comme guérisseur, et sa suite aussi comme directeur de l'école de Lyon. Et aussi comme âme charitable, hein, puisqu'il y avait des loyers qui étaient payés par l'école pour des gens miséreux. Et donc il y a une filiation, il y a une activité qui est entretenue par le groupe. Et puis, on a aussi des personnes qui se réclament de M. Philippe, jusqu'à aujourd'hui, qui disent qu'ils ils ont été formés par quelqu'un qui a été formé par, etc., puisque l'école a formé des médecins magnétiseurs. Et toujours aujourd'hui, je vois notamment une boutique à Lyon, pas loin de l'université des Quais, où il y a encore le portrait de M. Philippe, que vous pouvez aisément aller voir. Il y a encore des personnes qui guérissent en se disant disciple de Maître Philippe ou de M. Philippe. Et ça tombe et fleurit parce que ce type de réputation se maintient et perdure.
Et à quel moment le titre d'officier de santé se perd-il ?
Alors, il se perd en 1892. Pour l'anecdote, on est au moment où les médecins sont maires de Lyon. Docteur Gailleton, par exemple, est médecin. Et on est au moment où la médecine commence à essayer d'être... On est dans le moment scientiste. Donc on essaye d'avoir une médecine bien plus scientifique, appuyée sur des bases plus solides. Et c'est là où le diplôme d'officier de santé va être enlevé. Mais ça faisait déjà longtemps que les médecins essayaient de se débarrasser de ces subalternes qu'ils jugeaient plus nuisibles que vraiment utiles. Et puis qu'ils leur enlevaient peut-être un peu de clientèle aussi.
Alors, comme il n'y a aucun rapport avec l'armée, aujourd'hui, on a encore des officiers de santé dans le corps militaire.
Oui, mais là, le terme d'officier doit s'entendre comme un terme militaire. Ils n'ont pas un office, comme l'étaient les officiers de santé. Ils sont officiers, ils ont un grade. Et ils sont médecins. Les deux termes n'ont pas de... se ressemblent, mais ils ne sont pas équivalents. Ils n'étaient pas concernés par les lois du 19e siècle, en tout cas.
Donc, en cette période virale et de problèmes de santé, il serait peut-être bon de faire appel à ce genre de guérisseur qui peut être à la solution.
Ah, il serait bon, je ne sais pas. En tout cas, il y a des gens qui le font encore.
Merci Jean-Pierre. Donc, je vous donne rendez-vous le 12 février à 16h à l'auditorium pour prolonger cette émission avec la conférence qui est proposée par l'Académie, dont le thème sera « L'itinéraire en Beaujolais d'un épicier ambulant reconnu médecin sans lettres au XIXe siècle » par Olivier Faure. Toutes ces informations peuvent être non plus sur le site parce qu'il est encore en cours de préparation, mais sur Facebook. Merci Jean-Pierre, à bientôt.
La chronique beaujolaise de l'Académie. Une émission proposée par les académiciens Pierre Prunet et Jean-Pierre Chantin. Sur Calade, le 100.9 et www.radio-calade.fr.